Bon début de soirée avec Europe 1. Il est 19h.
Nous souhaitons des initiatives à l'égard de la Turquie pour continuer pression, dialogue et résolution de cette crise et de cette situation inacceptable.
Le couple franco-allemand fait bloc pour condamner l'offensive turque en Syrie. Emmanuel Macron et Angela Merkel réunis à Toulouse ce soir.
Les salariés de General Electric toujours mobilisés à Belfort. Ils entament leur deuxième semaine de blocage contre le plan social qui les touche.
Un chercheur français rattaché à Sciences Po, arrêté en Iran. Il est en détention depuis le mois de juin. La France demande sa libération. Et puis Marie-Antoinette, objet d'une exposition à Paris. La reine la plus haïe de France devient une icône pop.
La météo avec vous, Anissa.
Toujours du gris et de la pluie pour demain. Quelques beaux rayons de soleil le long de la Méditerranée. Je vous détaille votre journée de demain dans un instant.
Europe 1. Le couple franco-allemand réuni ce soir, conseil des ministres franco-allemands à Toulouse, à la veille d'un conseil européen qui s'annonce particulièrement important demain à Bruxelles. Parmi les sujets, il y a bien sûr le Brexit. Emmanuel Macron, optimiste, dit à l'instant qu'il veut croire qu'un accord est en train d'être finalisé. Un peu plus tôt, le président du Conseil européen, Donald Tusk, affirmait que les bases de l'accord sont prêtes.
Et puis l'autre sujet, c'est bien sûr l'offensive turque en Syrie. Sébastien, sur ce point, l'Allemagne et la France font bloc. On écoute Emmanuel Macron.
Nous avons échangé sur la situation internationale en poursuivant notamment la coordination de nos efforts sur l'urgence la plus tragique du moment, celle de l'offensive turque en Syrie. Sur ce point, la France et l'Allemagne agissent de concert. Nous avons obtenu ensemble l'engagement des pays européens à interrompre leur vente d'armes à la Turquie. Et d'autre part, nous souhaitons ensemble coordonner avec plusieurs autres membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord des initiatives à l'égard de la Turquie pour continuer là aussi pression, dialogue et résolution de cette crise et de cette situation inacceptable.
Emmanuel Macron avec Jean-Rémy Baudeau. Et ce soir, on apprend que les soldats syriens ont atteint la frontière turque. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ils sont entrés dans Kobané, le dernier village kurde de Syrie, aux côtés de troupes russes.
Et le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète, lui, du risque d'une dispersion des prisonniers djihadistes en Syrie.
Une courte déclaration adoptée à l'unanimité des 15 membres, dont la Russie, mais qui ne réclame pas la fin de l'offensive turque. Le ton est monté aujourd'hui entre Ankara et Washington. Le président turc Erdogan demande aux Kurdes de déposer les armes. Le vice-président américain Mike Pence décolle ce soir pour la Turquie. Il y aura finalement une rencontre entre les deux hommes.
Ils entament leur deuxième semaine de blocage sur le site de Belfort. Les salariés de General Electric tentent toujours d'obtenir la réduction du plan social annoncé.
Oui, ce plan prévoit la suppression de plus de 1000 postes en France, dont près de 800 à Belfort. Emmanuel Dutheil, vous suivez ces négociations dans lesquelles le gouvernement est impliqué. Ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a donné quelques indications sur Europe 1.
Oui, je peux même vous dire que Bruno Le Maire aura en ligne demain soir le patron monde de General Electric. Ce sera le deuxième coup de fil en 3 jours. Le ministre de l'économie veut le convaincre qu'il est indispensable de faire un geste. Côté américain, on commence un tout petit peu à entendre ce message, mais les Américains ne veulent pas plier sans se battre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent obtenir un accord de compétitivité pour le site de Belfort, c'est-à-dire coupé par exemple dans les RTT ou dans les primes des collaborateurs. C'est indispensable pour faire en sorte de rendre ce site intéressant, dit-on chez GE. En échange, ils sont prêts à réduire, selon nos informations, de près de 200 postes le plan prévu. Et surtout, ils sont prêts à étaler dans le temps ce plan. Mais pour ça, il faut un accord des syndicats et c'est là que ça bloque pour la CGT. Ce qui est sur la table est totalement inacceptable.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
C'est une information qui n'avait pas été rendue publique jusqu'à présent. On a appris aujourd'hui qu'un chercheur français était détenu en Iran.
Oui, il a été arrêté au mois de juin dernier avec sa collègue franco-iranienne Farida Adelra pour atteinte à la sécurité nationale selon Téhéran. Il s'appelle Roland Marshall, chercheur du CNRS réputé. Il travaillait pour Sciences Po où ses collègues, à la demande du Quai d'Orsay, étaient jusque-là restés discrets pour ne pas compliquer les négociations en cours. Écoutez ce professeur Richard Banegas.
Pour tout un tas de raisons qu'on peut imaginer, le Quai d'Orsay a préféré qu'on fasse silence sur le nom de Roland, celui de Fariba étant sorti par ailleurs par les réseaux iraniens. On nous a demandé de garder le silence, ce que nous avons fait, c'était compliqué. Mais bon, ça, ce confort moral des chercheurs, évidemment, passe au second plan à des considérations tactiques ou stratégiques qui doivent mener à la libération de nos deux amis. Donc c'est ça qu'on a fait prévaloir. Aujourd'hui, que le nom de Roland est également sorti dans la presse, eh bien, voilà, on passe sans doute à une autre étape et on va voir quels autres types d'actions pourront être menées. À tout le moins, j'espère que nous parviendrons à aussi exercer cette pression qui me paraît importante via une suspension des relations scientifiques avec l'Iran.
Un professeur de Sciences Po avec Victor Dolande. Notez bien cette date du 5 décembre, ça risque d'être très compliqué. On savait déjà pour les transports, RATP, SNCF en grève contre la réforme des retraites. Finalement, ils sont rejoints par plusieurs syndicats, dont la CGT, Force ouvrière, Solidaire, la FSU également, et les associations étudiantes et lycéennes pour une première journée interprofessionnelle donc de protestation contre la réforme des retraites, 5 décembre.
Tout autre chose maintenant. Elle fut la reine la plus haïe de France, mais elle continue de fasciner Marie-Antoinette et la star d'une exposition à Paris.
Une exposition qui s'est ouverte aujourd'hui à la Conciergerie, exactement là où elle a vécu ses dernières heures avant l'échafaud. L'échafaud, c'était un 16 octobre, le 16 octobre 1793. Marie-Antoinette, devenue aujourd'hui presque une icône pop, Diane Chénouda.
Reine dépensière et détestée par son peuple qui termine décapitée sur l'échafaud, Marie-Antoinette va ensuite être adulée comme une sainte au 19e par les royalistes. Jusqu'à devenir, depuis une vingtaine d'années, une véritable icône pop, comme l'explique l'historien Antoine de Bac.
C'est une jeune femme moderne qui s'émancipe à travers son rapport à ses amours, à la nature, à ses enfants. C'est véritablement cette nouvelle princesse. Je dirais un petit peu sur le modèle de la princesse de Galles, de Lady Di, hein, qu'on a construit une nouvelle image de Marie-Antoinette, notamment la bande dessinée, le cinéma, la mode. Marie-Antoinette est devenue une sorte d'icône de mode, de fashionista de la haute couture. Hein. C'est véritablement une figure pop iconique de niveau mondial.
Elle est allée dans les buissons à l'aube, avec plusieurs hommes.
Le célèbre film de Sofia Coppola en 2006 a beaucoup contribué à cette nouvelle image pop de Marie-Antoinette. Les mangas aussi en ont fait une héroïne à laquelle les jeunes femmes peuvent s'identifier. Sans oublier bien sûr Kate Moss ou Madonna qui ont défilé en Marie-Antoinette.
Marie-Antoinette, ouais. Métamorphose d'une image, c'est à la Conciergerie à Paris dès aujourd'hui et jusqu'au mois de janvier. Et puis une autre exposition, celle-là qui ouvre la semaine prochaine au Louvre, exposition Léonard de Vinci. On a appris aujourd'hui, et c'est sans doute un soulagement au musée du Louvre, que la justice italienne autorise finalement le prêt d'un certain nombre d'œuvres de Léonard de Vinci à la France, dont le fameux dessin de l'homme de Vitruve.
Et un révolutionnaire d'ailleurs au Louvre. Merci beaucoup Sébastien Krebs. 19h30, vous serez de retour avec un nouveau point complet sur l'actu.